Lorsque tu te concentres sur ton kung-fu, lorsque tu t'appliques, t'es nul.
Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening, the light that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of paint.
Ni hao, mon cher Hugo.
Ni hao.
Comme on dit en Chine.
T'as raison.
Bonjour, ATC.
Donc aujourd'hui, ATC s'intéresse aux films épiques chinois, japonais
N'importe
et
quoi.
Coréens.
Les bon. Films de sabre et d'épée.
Oui, mais voilà, oui. Et ce qui a un terme technique qui s'appelle les...
Wuxiapian.
Wuxiapian. Et donc tu veux nous faire un petit historique des films justement de cap et des pailles ?
Bien sûr, monsieur. Alors le Wuxiapian, littéralement film de chevalier errant, aussi appelé film de sabre chinois, est un genre cinématographique du cinéma chinois. S'apparentant au genre littéraire du Wuxia. Le Wuxiapian, oh, c'est super dur à dire.
Mais je crois qu'on va s'amuser aujourd'hui.
Oui.
Hein.
Apparaît dans le cinéma chinois dès les années 20, sous l'influence de la Terreur Blanche. Tu peux nous parler de la Terreur Blanche ?
Non, je
ne
me rappelle
pas. Merci, au revoir.
Mais,
non, vous,
non,
avez,
non,
passé,
non,
vous avez passé votre tour.
De Chiang Kai-shek.
Voilà, l'un des tout premiers est Li Fai-fai, une chevalier errante, 1925. Mais c'est l'incendie ? Non, c'est pas possible. Du monastère du Lotus Rouge ?
Voilà, c'est ça.
Ah, d'accord.
Et qui a eu...
En 1928, ouais, qui marque le premier grand succès du genre, il connaîtra 17 suites.
En fait, l'incendie du monastère du Lotus Rouge est à ce jour le film le plus long de l'histoire du cinéma. Il dure 27 heures, c'est un film quand même muet. Alors bon, il y a des détracteurs parce qu'en fait, il n'est pas véritablement le film le plus long parce qu'il en existe des bien plus longs. Mais en fait, c'est le seul qui raconte une histoire en entier. Les autres sont souvent des reconstitutions d'images. Et donc voilà, donc cette histoire est quand même la plus longue.
À la fin des années 30, il connaît un grand essor, en particulier dans la région de Canton. Le Wuxia est par la suite interdit par le régime communiste,
oui.
Mais continue dans les autres régions sinophones, telles le Taïwan.
Non, c'est Taïwan. Bah, l'île de Formose. Hein.
Formose.
Oui, oui. Bah,
ah,
l'île
pas
de Formose.
Formose.
Ni Fornox, d'ailleurs.
Alors, la qualité inégale et le manque d'originalité des séries lassent progressivement les spectateurs. Donc, au début des années 60, c'est Hong Kong qui devient le principal producteur de films de ce genre. S'inspirant des films de sabre de l'âge d'or japonais, tels que Les Sept Samouraïs, d'Akira
Kurosawa.
Merci. La Shaw Brothers. Tu peux nous parler de la Shaw Brothers ? Non plus. Bon, alors Gwen n'est pas là aujourd'hui.
Mais c'est pas ça.
Ah,
mais...
tiens, t'es encore le cul dans l'herbe, hein ?
Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Nous aimons les fleurs, nous aimons les fleurs. Nous sommes des babas, nous sommes des babas.
Les Shaw Brothers les adaptent à la culture chinoise, assurant au cinéma de Hong Kong une renommée mondiale. C'est à ce moment que les combats d'arts martiaux prennent une nouvelle dimension. Plus long, plus chorégraphique, plus violent, cette métamorphose s'accompagne d'un changement de langue du mandarin de Shanghai au cantonais de Hong Kong. Le grand public occidental a découvert ce genre traditionnel avec le succès mondial du film
Tigre et Dragon.
Bien, Gwen. Pour voir si t'étais là.
Dang Li.
Bien.
Qui avait fait Hulk.
Et c'est avec qui ça ?
Alors c'est avec...
C'est trop tard. Avec Shou Yang, Michel Yao et Yang Yingyi.
Oui, Shou Yu, en fait, Michel Yao, Zhang Ziyi, Sheng Shen et Cheng Pei Pei.
D'accord. Et on ainsi va... que héros de...
De
Zhang Yimou. Avec Jet Li.
Voilà, c'est ça.
Tong Yongyi.
Enfin, moi je...
Maggie Chung. Attends, je finis ma phrase parce que je t'ai dit j'avais 5 lignes. Alors tu me laisses faire mes 5 lignes.
Je suis Monsieur Montana Tony.
Et aussi donc le secret des poignards volants de Zhang Yimou avec Zheng Yi. Issu de la littérature classique populaire, le Wuxianpian reprend les thèmes traditionnels opposition du bien et du mal, du devoir et du désir. Il met fréquemment en série un chevalier itinérant. À vous, Cognac G.
Oui, alors, en fait, moi, ce que je voulais rajouter, mon cher Hugo,
oui.
Et c'est, en fait, genre, a déjà commencé un petit peu avant Tigre et Dragon, c'est par l'empereur et l'assassin de Shen Kang, qui est en 98 et qui a reçu le Grand Prix technique du Festival de Cannes en 1999. Donc en fait, ça raconte, et ça sera aussi le cadre de héros, donc du premier empereur, Ying Zheng, héritier du royaume des Qing, qui donnera le nom de Chine, qui cherche à dominer les six autres royaumes, parce que c'est l'époque des sept royaumes. Et sa stratégie paraît imparable. En fait, il envoie sa concubine Dame Zhao, qui est jouée par Gong Li, qui est une grande actrice chinoise, qu'on a vu dans Épouse et concubine, Qiu Zhu, une femme chinoise, et comme espionne dans le royaume de Yan, et la charge d'engager un assassin pour le tenter de le tuer, et ainsi pouvoir déclencher une guerre. Et en fait, elle persuade l'assassin Yin Kei, qui est joué par Li Yuyan. Ouais, on va s'éclater au niveau des noms. Là, je sens que. Hein, j'espère qu'il n'y a pas des cynophiles qui vont nous écouter parce que là, je crois qu'ils vont.
Des cynophiles ? Mais si, j'espère qu'il y a des cynophiles.
Non, mais des cynophiles, des gens qui adorent le chinois.
Ah.
Des cynophiles. Et en fait, elle tombe amoureuse de cet assassin et en plus, elle assiste au massacre sanglant des enfants du royaume voisin de Zhao, dont elle est originaire. Et en fait, ce massacre a été ordonné par son époux et elle se retourne contre lui, prête allégeance au Yan et les aide dans leur tentative d'assassinat. Quelques années plus tard, donc, on a effectivement le film, on repassera un peu plus tard sur Tigre et Dragon, t'as le film Héros, comme tu disais, de Zhang Yimou.
En 2002.
En 2002. Mmh. Et qui, lui, est connu parce qu'il a fait le film Le Sorgho Rouge en 1987, Épouse et concubine, et Qiu Zhu, femme chinoise. Et en fait, ça la raconte donc toujours là, à la période des royaumes combattants, au 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'unification des royaumes chinois par l'établissement de la dynastie des Qing en 221 avant Jésus-Christ, alors que la Chine est divisée en 7 régions qui se font la guerre, le roi de Qing, à la grand renfort de batailles et d'invasions violentes, rêve de réunifier cet empire aujourd'hui éparpillé. Et là, c'est là où moi je trouve que ça commence déjà, ce film, il est extraordinaire. C'est déjà, ça commence par le nom des personnages. L'âme brisée, flocon de neige, ciel étoilé, trois des plus grands guerriers du royaume de Zhao. Donc on a parlé de ce fameux massacre dans le film précédent. C'est un territoire qui s'étendait sur la province actuelle de la Mongolie intérieure, du Hebei, du Shaanxi et du Shaanxi, et qui sont également des conspirateurs reconnus, les plus actifs et les plus dangereux, et qui auraient été abattus, dit-on, par un seul homme. Mais tout est acquis à la cause du roi, le fameux son nom, Jet Li. Pour le récompenser, le roi de Xi accepte de le recevoir. Et en fait, il va raconter l'histoire. D'abord, son nom va raconter une histoire. Le roi va raconter une autre version. Et Loi va raconter une troisième. Et le tout est d'approcher le plus possible...
De la réalité
Non, le plus possible...
La vérité
Non, du roi. Parce que l'assassin a une technique... qui est efficace que à partir d'un certain nombre de mètres. Ce qui est génial dans ce film, surtout, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a une couleur. Soit ils sont tout en blanc, soit ils sont tout en rouge, il y a vert, et les combats, ils sont extraordinaires. Donc voilà, moi je trouve que...
Est-ce que tu as le nom de celui qui orchestre les combats ?
Je crois que c'est Denis Yen.
Non, c'est pas lui.
C'est pas lui.
C'est un nom typique chinois, là, super connu. Tu sais, il a fait Matrix, il a fait les Kill Bill, il a fait Tigre et Dragon, Hero.
Je sais que Denis Yen, qui joue dans ce film Ciel étoilé, a fait beaucoup de chorégraphies, et il me semble d'ailleurs qu'il l'a fait sur Tigre et Dragon.
Il s'appelle Yuan Wuping, il est super connu ce type.
Tu parlais des comédiens, excuse-moi d'en revenir.
Maggie Chuang. Je parlais du chorégraphe.
Oui, je sais, mais moi je parlais des comédiens. Et Maggie Chuang, qui joue Flocon de Neige, et qui est l'épouse, entre guillemets, de Tony Leung Chu Wai, L'âme brisée. Et en fait, eux, ils sont connus parce qu'ils ont joué déjà ensemble dans le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love.
C'est le film que tu parles, c'est tiré d'une histoire vraie, hein ?
Oui. En fait,
je crois que c'est la vie du roi Ying Zheng, voilà. moins de 210,
voilà, c'est ça, et qui a unifié. Et qu'en fait, on reconnaît, puisque c'est lui qui a le fameux cimetière, là où, tu sais, quand il s'est fait enterrer, il avait peur de la mort. L'île de Pâques, oui, bien sûr, ok, super, avec les œufs et tout, et le lapin. Non, mais ça, c'était l'émission d'avant.
Cet empereur est quand même connu pour son mausolée, qui s'étend sur 56 kilomètres, à proximité de la ville de Xi'an et qui a été découvert en 1974. Alors, la nécropole a quand même nécessité 36 ans d'ouvrage et une main-d'œuvre de quand même 700 000 personnes. Emma, quand même pas négligeable. Et le contient, le, Le tombeau contient quelques 8000 statues qui ont tous un visage différent et des chevaux à taille réelle aussi. Et tous en terre cuite. C'est une véritable armée qu'on appelle l'armée soit de terre cuite ou l'armée d'argile. Et les ouvriers qui avaient assisté à l'enterrement donc de l'empereur auraient été emmurés vivants pour préserver le secret. Et en fait, on retrouve aussi ça dans la muraille de Chine, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de corps qui se retrouvent dans les fondations de la muraille. Et donc voilà, il est connu et c'est effectivement sa dynastie qui a donné le nom de Chine. Xin. Et en fait, en chinois, on dit Zhong Guo, l'empire du milieu, en mandarin.
Attends, on peut juste dire un petit truc, c'est que les costumes des personnages avaient été retouchés par numérique,
oui,
sur Hiro.
Ce film, il est très esthétique. Alors, on verra peut-être moins dans d'autres films suivants dont on va parler.
Il y a toujours un esthétisme dans ces films.
Il y a toujours un esthétisme, mais là, l'esthétisme passe avant les combats. Moi, je trouve dans ce film-là, parce qu'il y a vraiment une histoire de couleur, il y a une histoire de douceur, de tranquillité. Je veux dire, à un moment, ils combattent dans l'eau. Tu te rends compte que quand ils ont combattu sur
même
l'eau...
Même sur les bambous.
Je tape sur des bambous et c'est numéro 1.
Oui, voilà. Mais à un moment, on les voit combattre sur l'eau d'un lac.
Ah oui.
Et pour l'histoire, en fait, ce lac, il était immobile que le temps de, je crois, de midi à 1h. Donc, et il fallait effectivement une certaine saison, puisque c'est là où les arbres sont rouges, et donc finalement il y a un côté encore plus esthétique. Donc ils avaient 1 heure par jour pour pouvoir tourner leur scène. Quoi. Et il y a donc Tigre et Dragon, avec Michel Liao qu'on verra dans d'autres films, et Zhang Yi qui l'a aussi. En fait, ça parle de l'histoire d'amis de longue date, donc de Shou Yu Fat et de Michel Liao, qui sont respectivement Lu Mu Bai et Shu Yan, et qui sont donc des amis de longue date, et qui sont déchirés entre leurs devoirs et leur passion secrète qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, et qui recherchent à ramener dans le droit chemin une jeune fille, donc Zhang Yizi, et qui joue aussi dans Hero d'ailleurs.
Oui.
Et qui...
Ils ont le secret des poignards volants.
Voilà, et qui a dérobé une épée légendaire. En fait, elle a fait ça pour tenter d'échapper à sa vie ennuyeuse qui l'attend. Ce film a été récompensé par 4 Oscars, 2 Golden Globes.
4 BAFTA, c'est les récompenses de Londres.
Et c'est vrai que là, pour les Occidentaux, je pense que pas que ça a été une claque, parce qu'on connaissait un petit peu. Les aficionados se connaissaient les films de combat. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans un nouveau genre de cinéma, quoi. Comme tu disais, le secret des poignards volants qui est aussi de Zhang Yimou en 2001.
Je peux pas dire un mot sur Tigre et Dragon.
Mais vas-y, mais lance-toi, fais pas après.
Oui, mais c'est juste pour t'énerver. Donc le succès n'est pas anodin quand même de Tigre et Dragon, puisqu'on retrouve une coproduction internationale entre la Chine, Taïwan, Hong Kong et les États-Unis. Non, mais c'était juste pour parler aussi de l'émancipation de la femme.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves.
Parce que les rôles phares sont quand même par les femmes, hein, alors que c'est souvent une société patriarcale. Merci. Bah, en Chine.
Oui, mais est-ce
parce que t'as l'impression là, tu sais, quand elle saute à la fin, oui, on l'a déjà vu, donc on peut le dire. Et ben, c'est comme une sorte de libération pour elle. Toi, elle échappe à ses devoirs conjugaux,
voilà,
le mariage, parce que pour elle, le mariage, c'était
Quand on voit dans Épouses et concubines. Ou le palanquin des larmes aussi.
Oui, il y a beaucoup de notions de sacrifice aussi, tout le temps, je trouve.
Eh ben, oui, c'est-à-dire que...
Parce que Michel Yao, elle se sacrifie.
Voilà, c'est ça. Mais oui, parce que il y a... Mais ça, on verra dans d'autres films plus explicitement. C'est-à-dire que t'as le fatum. C'est-à-dire que t'as cet destin qui t'appelle, qui est une fatalité. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu ne peux pas t'en échapper. Moi, je te citerai deux films où effectivement, c'est le cas, où les mecs, en fait... Quoi qu'ils fassent, de toute façon, c'est pour leur tronche. Il y a ce devoir qui est très important, mais je pense que c'est lié aussi à la philosophie chinoise, parce qu'il y a beaucoup de systèmes hiérarchiques, il y a beaucoup de cette administration imposante et qu'on voit dans beaucoup de films.
Je pense que le rôle qu'avait montré aussi, comme tu disais, Zhang Yi, donc la princesse rebelle. C'est ça, c'est vraiment un rôle d'émancipation qu'elle veut montrer par rapport à... Parce qu'on le voit à un moment donné, Michel Yao qui lui explique le mariage, qu'il faut rentrer dans le rang.
Voilà.
Et...
Mais c'est-à-dire
que soumission un peu quoi.
Moi ce que je me demande, est-ce que techniquement c'est vraiment des histoires qu'on a actualisées, c'est-à-dire qu'on a mis des personnages en avant comme ce que Peter Jackson avait fait dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que le personnage d'Arwen a tout de suite pris une autre dimension que dans le livre il n'y est pas du tout, et que effectivement comme on est quand même en l'an 2000, puisque je veux dire le premier film qu'on cite est quand même de 98, est-ce qu'à un moment cette libération de la femme effectivement elle se fait par le biais du cinéma, mais ce qui n'était pas techniquement à l'origine? Moi c'est ça que j'aimerais bien savoir. Alors j'ai pas lu les romans d'époque, mais j'aimerais bien savoir effectivement, parce que c'est vrai que ce soit Zhang Ziyi ou Michelle Yeoh ou d'autres femmes, c'est vrai que oui effectivement elles ont quand même une sacrée présence. Alors c'est vrai que peut-être que là on va en revenir, c'est effectivement le côté esthétique qui est mieux, mais je pense que en milieu occidental c'est le cas aussi, parce que maintenant les héros sont des héroïnes, hein. Les Resident Evil, les aliens, je veux dire voilà, c'est des femmes.
Oui, pour répondre peut-être un peu à ta question, Tigre et Dragon est l'adaptation du quatrième livre d'un roman de Wang Dulu, paru dans les années 40 en Chine et Hong Kong. Donc tu vois, déjà, ils en parlaient peut-être à l'époque, ça devait être titillé.
Oui, mais c'est ça, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est est-ce que le kung-fu ou les arts martiaux étaient ouverts aux femmes aussi. Donc on va revenir au cinéma. Donc il y a Le Secret des Poignards Volants, donc.
2004.
Qui raconte en 856, vers la fin de la dynastie Tang, qui succède à la dynastie Xiu, qui a régné de 581 à 618. Les Tang, eux, vont régner de 618 à 907. Un groupe de bandits, les poignards volants, volent les riches pour donner aux pauvres. Ça revient
Robin
souvent.
Des bois.
Voilà, ça revient souvent. Et nargue le pouvoir en place. En réponse, le meneur des poignards volants est assassiné. Comme le nouveau chef se comporte plus brutalement que son prédécesseur, mais est inconnu des autorités, le capitaine Liu et son lieutenant Yin sont chargés de l'arrêter et de l'éliminer. Mei, une danseuse aveugle, est soupçonnée d'être la fille de l'ancien chef et le seul piste menant au nouveau leader. Comme elle refuse de révéler quoi que ce soit, Yin se fait passer pour un guerrier solitaire nommé Van et la fait évader pour l'accompagner au siège des bandits. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Donc Léo est joué par Andy Lau, qui fera de nombreux films, ça j'en reviendrai parce que moi je trouve que c'est un très bon acteur. Yin, c'est Takeshi Koneshiro, qui est un japonais. D'ailleurs, je crois qu'il revient plusieurs fois lui. Mei, c'est la fameuse Zhang Ziyi.
Ouais.
Voilà, après il y en a d'autres, mais bon, hein, voilà.
Après, il ne peut plus prononcer.
Voilà, non. Takeshi Koneshiro, on l'a vu aussi dans le film Returner, qui est une histoire de temps, là, un peu science-fiction, et on le reverra aussi dans Le Seigneur de la Guerre, Les Trois Royaumes. Beaucoup de gens ont adoré ce film. Moi, je trouve
il
que...
Il est passé inaperçu en France.
Mais je trouve que par rapport à Hero et par rapport à Tigre et Dragon, c'est moins.
C'est différent. Pas la même chose, je trouve.
Là, non, mais c'est pas la même chose.
Il y a une tristesse dans le film qui est énorme, je trouve.
Oui. Non, mais il y en a dans d'autres films, c'est encore pire. Mais voilà, parce que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment le premier triptyque et qui est la base de tout le cinéma. Si ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la Chine, devenant quand même une puissance industrielle, le cinéma chinois s'est aussi émancipé et a commencé à utiliser son histoire pour créer des films et de plus en plus cher jusqu'au fameux Trois Royaumes de John Woo qui a été, je crois, qui est pour l'instant le film le plus cher.
Grâce à l'émergence de Hong Kong, hein. Parce que la show...
Ah non, mais c'est...
La show Brothers, tout à fait.
Mais bon...
Après, t'as les capitaux, donc je pense que tu vas investir, c'est une volonté politique.
Oui, non, mais je te signale que la Hong Kong a été rétrocédée...
Oui, à la Chine.
À la Chine. Oui, c'est à partir de ce moment,
je pense. C'était en quelle année?
Je crois que dans ces années-là. Hein.
En 97?
97. C'est là où je voulais faire le parallèle, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ces films-là, c'est un peu comme des péplums à notre époque, à nous, des années 60. Mais c'est-à-dire que...
Il y a les moyens.
Il y a les moyens au niveau des effets spéciaux. Il y a les trucs des combats, ce qui est un peu moindre, évidemment, dans les péplums. Et puis, c'est surtout que, oui, effectivement, c'est le côté moderne. On peut mettre 1000 thunes dedans, quoi.
Oui.
Et ce qui fait qu'effectivement, là, la Chine est en train de... Enfin, je ne dirais pas redécouvrir, parce qu'ils le connaissent, leur histoire. Mais c'est-à-dire, peut utiliser ce background qui est leur histoire, plurimillénaire, ce que les États-Unis ne peuvent pas faire. Et qu'ils sont obligés de nous mousquetaires 3D...
Donc pour revenir un peu au Secret des Poignards là, voilà. Donc il y avait la dernière apparition de l'actrice Anita Mui, qui est décédée avant le tournage. Donc le réalisateur décide de modifier son scénario plutôt que de prendre une remplaçante. Donc la chanson a été interprétée par la diva Kathleen Battle, le thème du Lovers. Et l'actrice, donc là, tu parlais Zhang Ziyi, pour donc parfaire son rôle d'aveugle, de danseuse aveugle.
Ah ouais.
Elle est restée 2 mois avec une aveugle qui était atteinte de cécité depuis l'âge de 12 ans et qui avait une tumeur cérébrale.
Voilà. Oui, mais c'est la rigueur chinoise. Hein.
Oui.
C'est sûr que quand on voit
au
cirque, quand on voit le cirque chinois. Et... De nouveau, notre cher camarade, Zhang Yimou, a fait La Cité Interdite en 2007, et qui à l'époque est le film le plus cher de Chine. On est dans la Chine du 10e siècle, donc dans la fameuse période de la dynastie Tang, et de retour de la Cité Interdite, le roi découvre qu'un complot se trame au cœur même du palais.
On a fait le tour. Allez, on s'en va.
Oh non! Hein? Les ailes de la justice! Mon point à fin de justice! C'était mon point.
Les dangereuses alliances et les manipulations des conspirateurs n'ont qu'un seul but, prendre le pouvoir du plus grand royaume du monde. La trahison viendra de l'intérieur, une rébellion menée par la reine elle-même. Donc l'empereur Ping est joué par le fameux Zhou Yun-fat, donc de Tigre et Dragon, l'impératrice Phénix et de Gong Li, on avait vu aussi. Donc voilà. Et je trouve que, alors moi j'ai été un peu déçu par ce film-là. Il est grandiose, hein, je te dis pas, les décors, les costumes. Et en fait, je trouve qu'il est très beau esthétique. Là aussi, c'est effectivement dans la Cité Interdite, donc... Le cadre est magnifique, les décors, les costumes, les figurants aussi. Voilà. Après, moi j'ai l'impression qu'on a usé un petit peu trop la corde du fameux conspiration, le roi, la reine. C'est vrai que quand tu regardes certains films chinois, peut-être moins coréens, japonais, encore que si, c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté que moi j'ai l'impression de voir des tragédies grecques. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin tout le monde meurt. Hein, quoi. Et c'est vrai que dans la Cité Interdite, parce que...
C'est sûr, on n'est pas sur une happy end à l'américaine.
Ah ouais, non, là, du tout. Le héros, s'il faut qu'il meure, il meurt, et puis basta, on n'en fait pas tout un laïus. Alors que là...
que même, c'est même primordial des fois que des personnages principaux décèdent.
Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que...
Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette.
Oui, mais c'est-à-dire que moi, ça revient au fameux Fatum, c'est-à-dire que... Parce que là, il y a d'autres films sur la vengeance, et bien à un moment, tu dis, la vengeance... Et certes, un plan qui se mange froid, mais à quel prix? Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas trop à parler de ce film, parce que franchement, j'étais un peu déçu. Il y a Wu Ji, la légende des cavaliers du vent, donc du fameux Shen Kang, qu'on avait vu donc, dans L'Empereur et l'Assassin en 2005, et qui a vraiment une vision féerique. Donc en fait, c'est parmi les décombres d'une bataille, un enfant cherche de quoi se vêtir et se sustenter, c'est une fille, une petite fille, et sorti de nulle part, un petit garçon vêtu d'une armure la piège et lui fait un chantage. Elle parvient à s'en défaire, mais dans la fuite, perd son précieux butin, un petit beignet. Et une déesse apparaît alors et restitue son bien en échange. Elle exige de la jeune fille un choix crucial. Et en fait, de tout là, en fait, elle fait d'elle la femme la plus belle. Elle ne pourra jamais se faire aimer éternellement de l'homme qu'elle désire. Là, on découvre un général qui désire être le meilleur, le général Gong Ming, qui est joué par Hiro Yuki Sanada, et qu'on verra dans Le Dernier Samouraï. Et en fait, ce général veut plaire à cette fameuse dame, et il gagne une bataille où il découvre un fameux Kunlun, qui sera le héros du film. Et en fait, ce Kunlun est issu du peuple des neiges, et qui a été massacré par l'un des généraux, et qui est l'adversaire du général. Après, on tombe sur les trois royaumes de John Woo. John Woo, c'est quand même le mec qui a fait Mission Impossible 2, qui a fait Volte-Face. Le film raconte un épisode de l'histoire des Trois Royaumes, qui est un roman de Luo Guangzong, qui est de la fin des dynasties Han, et qui raconte donc la période des Trois Royaumes de 220 à 265, et qui effectivement raconte la bataille de la Falaise Rouge ou bataille de Shibi dans l'hiver 208. Et le site se situe à 36 km au nord-ouest de Puki, sur la rive sud du Yangtze-Kiang. En a lieu baptisé la passe de pierre, et il y a deux gros caractères, 1,50 m sur 1 m de large, donc la calligraphie Bi, mur, et Shi, rouge, que Zhu Yu, le stratège et maréchal du royaume de Wu, qui est situé sur le Nankin, le Shanghai et Suzhou, qui est dans le sud, hein, qui a fait peindre après la bataille pour célébrer la victoire. Donc voilà, et en fait, ça raconte effectivement cette bataille.
800 000 soldats, 2000 navires.
Voilà, c'est ça, sur le truc. Et franchement, alors celui-là est très beau parce qu'effectivement, on revient à tout l'essentiel du film chinois, c'est-à-dire la démesure.
Oui.
Parce que là, les figurants, en veux-tu, en voilà.
Mais ce film n'a pas été fidèle au roman, hein, parce que tu vois, les deux acteurs, là, ils sont
bien
frères,
sûr.
Et alors que dans le roman, ils sont assez jaloux.
Oui, non, mais disons qu'après, je crois que c'est dans le film Héros, carrément, ils avaient pris des soldats de l'armée pour jouer des figurants. Il y a tous ces héros qui s'engagent pour le dirigeant du Chou, Liu Bei, oui, le Chou, hein,
oui.
Contre Cao Cao, qui est le premier ministre de l'empereur Han, qui lui, le gros méchant de l'histoire. Mm. Et c'est vrai que tu as tous ces héros qui se mettent au service du bien. Et lui, il y a toujours une idée d'unification, quoi. Hein.
Oui.
Donc voilà, qui revient souvent dans les films chinois. Et non, je trouve qu'il est très bien fait. Alors, il y a des histoires d'amour, évidemment. Hein. Et non, franchement, il est extraordinaire, celui-là.
C'est ce qu'on a reproché à certains réalisateurs chinois, d'ailleurs, de faire l'apogée...
Oui.
De la réunification.
Ouais. Voilà, parce qu'on retrouve, en, de toute façon, dans ces films, on retrouve quasiment toujours les mêmes acteurs. Donc, il y a Tony Leung Chu Wai, qu'on avait vu dans Héros, Takeshi Kaneshiro aussi. Donc, voilà, c'est vrai que, non, franchement, il est extra. Ouais. Ouais.
Bon, après, dans un autre registre, on peut trouver Crazy Kung Fu, un film de 2004.
Oui, ça, c'est
réalisé
un peu plus léger.
Par Stephen Chow, ouais, mais ça change un peu. Après, on peut voir aussi Kingdom of War. Bon, ça, c'est moyen.
Oui, non, mais voilà, après, c'est comment, ça, comment tu le prononces à la française, parce qu'on a des films que, effectivement, comme moi, j'ai le film Seven Sword, et oui. Toi, t'as les sept lames.
T'as la 14e lame,
oui,
ça c'est très bien,
par contre,
film chinois, Daniel Lee, en 2010, c'est au temps de la dynastie Ming, l'empereur de Chine, possédait une arme absolue, et donc c'était ses gardes impériaux. C'est une force d'élite d'assassins recrutés dans les rues. Et ils avaient ce qu'on appelle tout un attirail de tueurs.
Voilà.
Et donc on pouvait trouver à l'intérieur les fameuses 14 lames. 8 réservées à la torture, 5 sont faites pour tuer et la 14e destinée au suicide en cas d'échec de la mission. Quoi.
Mm.
Donc après le film parle de ça. Quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a un qui décide de prendre le pouvoir. Et,
oui.
Et évidemment, il y en a un seul qui se dresse
Dragon
contre
vert,
tous les hommes.
Voilà,
Dragon Vert, qui est joué par Donnie Yen, hein, le fameux Donnie Yen.
Oui.
Donc voilà, et que j'en parlais maintes et maintes fois, celui-là. Bah, là, c'est encore une histoire d'honneur. C'est-à-dire que tu as ce personnage-là qui va aller jusqu'au bout, même s'il lui en coûtera très très cher. Quoi.
Oui.
Donc voilà, après moi j'avais Les Seigneurs de la Guerre en 2007 de Peter Chan, donc en Chine à la fin du 19e siècle, et marqué par la décadence de la dynastie Manchu des Qing de 1644 à 1912, donc le fameux dernier empereur, Puyi, qui sera empereur à l'âge de 6 ans, qu'on a vu dans un fameux film, et de la révolte des Taiping, donc c'est un soulèvement majeur dans le sud entre 1851 et 1864, que la dynastie a mis 15 ans à mater, quoi. Et c'est la guerre civile incessante parmi les armées alors que le peuple meurt de faim. Et le hasard réunit trois hommes, un général déchu, Jet Li, un chef de village, Andy Lo, le fameux, et son bras droit, Takeshi Kaneshiro, encore. Et donc le pacte de ces trois hommes se transforme en une guerre suicide. Et celui-là, il est aussi très très beau, moi je trouve.
Mmh. Je vois que tu as parlé de Jet Li, donc c'est juste pour citer qu'il est apparu pour la première fois dans Il était une fois en Chine.
Mmh.
Il y a eu 5 volets, donc 3 avec lui. Et au début, il parlait en mandarin.
Voilà, tout à fait. Donc après, il y a le fameux Détective D, le mystère de la flamme fantôme de Chu Hark en 2010. Donc voilà, en 690, Wu Zetian, la fameuse veuve du dernier souverain, est sur le point de devenir l'unique femme à accéder au titre d'impératrice de Chine, avant la fameuse mère de Puyi. Hein. Et une série de meurtres compromet la cérémonie de son couronnement. Et pour résoudre ce mystère, elle fait sortir le juge Ti, qui est un personnage littéraire. Hein,
Oui.
Et
fait par des étrangers, non? C'est des personnages littéraires de policiers. Hein.
En fait, le Détective Di est une histoire romancée qui se passe effectivement à cette époque de cette impératrice et qui a été écrite par Robert Van Gulik. Et donc elle le sort de prison et ce dernier décide de saisir cette occasion pour rentrer en grâce. Donc, Détective Di, Andy Lo, voilà. Hein.
Andy Lo?
Oui, Andy Lo. Ouais, le fameux. Hein,
Andy Andy Lo.
Oui.
Andy j'ai mal compris.
Oui. Il est Andy Lo, ouais.
Andy Lo, ouais.
Oui, et puis il y en a... Il y en a une qui joue la fameuse Li Bingbing qu'on verra dans le Resident Evil Retribution qui sortira cette année.
Pour citer aussi le premier film chinois en 3D, c'était Trou les jeunes.
Oui, ben justement, moi celui-là, je voulais justement en parler.
Oh, il est nul.
Non, non, moi je suis pas d'accord
c'est
avec toi.
C'est comme le maître d'armes.
Non,
le
non,
dernier
moi,
qui est sorti dernièrement, le 1er juin 2012, le Règne des Assassins de John Woo et Michel Yao, je trouve qu'il est mal fait. Quoi.
Ah non, moi, moi,
par rapport à Tigre et Dragon et des premières générations, moi je trouve que le Règne des Assassins est bâclé.
Non, moi je l'ai trouvé super nickel. True Legend, moi j'ai adoré, de Su Kan.
Bah en fait, ça raconte l'histoire de Su Kan et de son frère de Lei Yuan. En fait, Su Kan sauve le prince et demande au prince que son frère de Lei soit gouverneur du Hubei. Yuan se venge de son père adoptif puisque ce dernier avait tué son père qui était sous l'emprise des cinq points venimeux. Et ce même Yuan, lui, a justement retrouvé cette fameuse technique qui est d'empoisonner les gens par des contacts des points. Et Su Kan, en fait, perd lors de leur rencontre et se trouve empoisonné. Et grâce à la sœur Yu, qui est jouée par Michel Yeo, il guérit et là il va rencontrer le dieu du Wushu qui va lui apprendre des techniques de combat et récupérer son fils que son frère avait kidnappé.
Et moi je sais parce que ouais, c'est là où je veux y arriver, mon petit pépère. Elle sait, tu ne m'empêcheras pas de le faire.
Non, tu parles trop des films là, faut changer là. La Chine, il n'y a pas que la Chine.
Non, mais oui, mais on en reparlera, t'inquiète. Parce que, en fait, moi, surtout que ce passage de ce film, c'est surtout le passage où le héros rencontre un maître dans une taverne et qui lui apprend le Sikwan. Alors, qu'est-ce que le Sikwan ? C'est la boxe de l'homme ivre, qui est un style de kung-fu dont les gestes sont inspirés par une personne ivre. Ces mimes exagérés, ces brusques changements de rythme, ces déséquilibres, ces chutes volontaires qui en font une pratique très déstabilisante pour l'adversaire. La boxe de l'homme ivre, dans son expression de combat, peut comporter plusieurs styles et plusieurs enchaînements bien distincts selon son courant du Shaolin du Nord ou du Sud, ou encore d'autres courants qui n'ont pas forcément de lieu avec le Shaolin. Donc voilà.
C'était fait par Jackie Chan dans le film.
Non.
C'est pas ce film, True Legend, où on trouve les deux, là, Jet Li et Jackie Chan ?
Non, ça c'est Le Royaume Interdit.
Ah ouais ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et puis,
c'est là justement qu'il fait cette fameuse danse, Jackie Chan, dans ce film. La danse de l'ivrogne, il me semble que je l'ai lu ça.
Oui, tout à fait. Non. Oui, parce qu'en fait, il joue un homme qui est toujours ivre, effectivement. Oui. Mais bon, voilà. Et puis, moi, je voulais revenir, ça, je sais pas comment je vais le. Donc, parce qu'effectivement, c'est tout un art de combat. Donc, le fameux Wing Chun. Donc le Wing Chun est un art martial chinois originaire du sud de la Chine destiné au combat rapproché incluant des techniques à main nue et le maniement des armes. Très connu et qui a été... Donc en fait, sa technique, c'est toujours protéger son centre dans l'attaque ou dans la défense, canaliser d'une manière constante, le pousser des bras vers l'avant, utiliser la force de l'adversaire pour le retourner contre lui, utiliser les principes de déviation de force pour la défense et la ligne droite pour l'attaque. Lorsque le pont a été établi, rester collé aux avant-bras de l'adversaire car l'information qui transite par le contact le plus rapide est celle qui transite par l'œil. Si la force adverse est trop grande, cède et utilise ton système de déplacement pour te restructurer. Si l'adversaire recule, suis-le et maintiens la pression. Ne laisse pas reconstruire de nouveau plan. Ne laisse pas utiliser la force de ne pas utiliser la force de frappe, la vitesse et la masse corporelle. Donc il y a les formes à deux mains, le Xiu Nim Tao, dans la plus importante forme en Feng Shi, c'est un travail de géométrie corporelle et d'alignement qu'il faudra conserver le mieux possible lors de l'apprentissage des deux formes à main nue. Il y a le Shum Kyu, donc le fameux chercher le pont. Cette seconde forme se concentre sur les techniques de déplacement du corps total, de la synchronisation des déplacements, des frappes et des techniques d'entrée pour combler le fossé entre le pratiquant et son adversaire, ainsi que perturber sa structure. Donc les fameux anti-gripping et tout. Et puis la Byuji. Donc les doigts jaillissants, faits de techniques ultra courtes et ultra longues, de coups de pied bas et balayage et techniques dites d'urgence pour contre-attaquer quand la structure et la ligne centrale ont été mises à mal et que le pratiquant est gravement blessé.
Je vais vous parler du film Shaolin de Benny Chan qui est sorti en 2012. Alors c'est un film un peu parfois scolaire mais qui est quand même assez spectaculaire. Et en fait ça raconte l'histoire de la Chine qui est plongée dans le chaos des années 20 et qui se partage entre les seigneurs de la guerre. Et l'un d'eux, Wu Shen, qui vient de remporter une victoire, ne peut se résoudre à faire confiance au point qu'il organise une tentative d'assassinat assez mesquine pour se débarrasser d'un concurrent. Il n'ose pas aller jusqu'au bout de sa tentative et il est doublé par Cao Man, son second. et le coup fourré tourne à la catastrophe et Hao Chen perd tout. Et là il va retrouver refuge au monastère de Shaolin et se fait passer pour un moine. Et il donne un nouveau sens à sa vie. Donc voilà, et en fait c'est un film encore avec Andy Lau et Jackie Chan qui joue un cuisinier et qui n'arrive pas à combattre, quand même assez curieux. Voilà. Après moi je voulais aussi parler, parce que là on a parlé quand même pas mal du Witch, et en fait moi c'est surtout que ça fait référence à deux films, Ip Man, film de Wilson Yip qui est sorti en 2008 et qui raconte au début des années 30 la ville de Foshan, ville qui est prospère et florissante où beaucoup d'écoles d'arts martiaux du Nan Kwan sont ouvertes. Le fameux point du sud ou la boxe du sud qui désigne l'ensemble des arts martiaux chinois traditionnels qui sont originaires du sud de la Chine, notamment le Sting Hungar, le tigre et la grue, le Wing Chun, le Bai E Kwan, qui est la boxe de la grue blanche, et le Shaolin Kwan, qui est le dragon, le tigre, la grue, le léopard et le serpent. Ça vous fait pas penser à un certain dessin animé qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça? Et il y a aussi le Shou Li Fu, qui est le style du léopard, et qui utilise aussi le bâton, la lance, le sabre, l'épée, la hallebarde. Et voilà, et le meilleur d'entre tous ces maîtres, c'est Ip Man. D'autres que Donnie Yen, hein, le fameux Donnie Yen. Et en fait, à un moment, il y a un célèbre maître du Shangguang, donc du nord de la Chine. Et donc, c'est des coups de pied sautés, allongement des postures et des mouvements à ne pas confondre avec le Shaolin Kwan. Donc voilà ce fameux Xin Jin Shan Zhao qui est venu défier tous les maîtres de la ville. Le héros Ip Man va le battre. Et en 1937, c'est l'invasion japonaise et qui affecte tout le monde, et Iman et sa famille sont forcés à l'exil. Et lui, il doit travailler dans une usine à charbon, il rencontre plusieurs maîtres, et là, il y a le méchant de l'histoire, le général japonais Miura, qui est un maître karatéka, et qui envoie dans l'usine Lin Zhao, un ancien policier et ami de Iman, recruter des ouvriers pour combattre dans une arène et gagner, et pour ça, gagner un sac de riz. Évidemment, il y a des combats finaux avec évidemment la victoire de Ip Man quand même. Voilà, et qui est quand même forcé à l'exil. Voilà, et en fait, il y a un Ip Man 2 qui sort, qui est aussi de Wilson Yip et qui est sorti en 2010. Et en fait, donc Ip Man, fuyant la République populaire de Chine, se réfugie à Hong Kong en 49 et il découvre une ville en plein chaos où règne misère et violence. Et il découvre qu'en fait, les arts martiaux ne sont que des émanations des triades qui s'en servent pour recruter de nouveaux maîtres. Et là, évidemment, révolté par cette situation, il se base sur le Wing Chun pour créer sa propre école. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Wing Chun a été quand même connu à travers le monde parce que son meilleur adepte, et d'ailleurs le véritable Ip Man a été son maître, c'est Bruce Lee.
Je vais vous parler autre chose que de la Chine. Avec un film coréen, Le Bon, la Brute et le Cinglé, de Kim Yi-woon en 2008. Mm-hmm. Donc c'est un riche homme d'affaires est en possession d'une carte mystérieuse qu'il vend à un banquier et l'homme d'affaires paye un tueur pour récupérer la carte, mais a été devancé par un voleur fou qui ignore sa valeur. Il se trouve qu'un célèbre chasseur de primes, donc tout cela se passe dans un train, est intéressé par cette même carte et hop, il se lance à la traque des deux bandits, etc. Donc là, c'est plus un hommage à la trilogie du dollar de Léon.
Oui, tout à fait, oui.
Ça a été l'un des films les plus chers du cinéma sud-coréen. Mmh. Il a été projeté à Cannes en 2008, hors compétition. Il a été un peu, là aussi, ignoré en France, mais a reçu beaucoup de succès là-bas.
Ouais, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que...
C'est loufoque, c'est pas
mal. Oui, c'est complètement... c'est vrai qu'un peu, ça ressemble un peu à Crazy Kung Fu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film.
Nous allons prendre le bateau et passer au Japon.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, je peux.
Mais bien sûr.
Je peux, Gwen, hein.
Mais oui, vas-y.
Bon, alors, le Shambara est un genre cinématographique et théâtral japonais de bataille de sabre. Ce nom de Shambara vient de la contraction des onomatopées chanchan et barabara, désigne le bruit de la lame tranchant la chair. Le genre est également appelé Ken Jeki, film de sabre, et est parfois assimilé à un sous-ensemble du Jedi Jeki. Jedi, je ne sais pas trop comment ça se prononce, film historique. Ce genre obéit à des codes très précis quant à la définition des personnages, la forme visuelle et la structure de l'intrigue. Je pense que c'est totalement différent avec ce qu'on a vu, le Wu Qianpian. Le héros est la plupart du temps un combattant solitaire. Là, c'est un peu similaire.
Bah toujours. Hein.
Samouraï ou Ronin, de leur nom.
Oui, bah ça, deux écoles différentes. Le samouraï, c'est celui qui a l'honneur. Et le ronin, c'est celui qui est le traître. Hein. Oui, mais pour expliquer, parce que les gens connaissent le samouraï, mais le ronin, on connaît peu.
Il y a eu un film avec... Jean Reno,
Ronin, mais d'accord, mais non, mais c'est ça, c'est le genre, le Ronin, c'est le samouraï déchu,
oui,
qui n'a pas de maître surtout.
Samouraï ou Ronin, qui doit suivre le Bushido, la voie du guerrier, un code d'honneur dont l'irrespect entraînait le seppuku.
Oui, le fameux suicide.
Voilà, merci.
Et que tu peux même demander, c'est grand honneur que de demander à ton camarade de te faire seppuku, c'est-à-dire que toi, tu t'enfonces la lame dans le ventre et ton copain te coupe la tête avant que tu cries.
Merci Gwen. Pour les gens qui n'aiment pas la viande, c'est loupé. Les combats sont généralement caractérisés par un rythme particulier, une longue attente suivie d'échanges de coups de sabre rapides et violents, très sanglants. Les films se terminent généralement en apothéose avec une grande bataille ou un daiketo, c'est-à-dire un duel.
Ce qui est un peu le cas dans beaucoup de films, hein. Je ne veux pas me ramener ma quiche, mais...
Non, mais à l'époque, moi je te parle de l'époque,
oui, mais d'accord,
en 1920,
enfin, bon.
Quand ça a été créé.
Oui,
toi, tu fais trop le malin. Ça va se régler à coups de sabre.
Il n'y a pas de problème, je t'attends.
Alors, le kenjutsu, l'art du sabre des samouraïs, est à la base des combats présentés dans les chambaras. Et de nombreux films font référence au kuryu. Attention, pas le camping.
Oui.
Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors?
Ah bah non, on sera obligé de venir là tout le temps.
Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans.
Mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping.
Monsieur Chirac!
C'est pour moi? Tu t'appelles Chirac, toi?
Ben oui. Chirac? Patrick Chirac?
Pourquoi tu changes pas de nom?
Pourquoi c'est moi qui changerais?
Au Kuryu, c'est-à-dire les anciennes écoles d'arts martiaux du Japon médiéval.
Mm.
Ce qu'on retrouve donc dans le directeur des combats pour les 7 samouraïs, qui s'appelait donc Sujiro Yoshio, un maître de l'école Tenchu Shodo Katori Shinto Ryu. Ah, ça c'est une belle école, hein, Gwen. Donc en fait, c'était un maître à l'époque, toi c'était juste pour dire ça, quoi. Je te sens motivé là sur le Japon.
Ah non, mais moi j'ai deux super films, c'est bon, trois même.
Ah, t'as trois super films sur le Japon?
Ouais.
Donc on retrouve cette technique dans Soleil Rouge pour tuer le bandit dans la grange. T'en souviens de ça, de ce film avec Alain Delon?
Oui, tout à fait, que j'ai adoré d'ailleurs.
Comment il s'appelle? Charles Bronson.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et la blonde, je ne sais plus.
Ah, mais la blonde.
La blonde, voilà. Merci, Gwen. C'était Claudia Cardinal? Non.
Blonde? Oui, bien sûr, Claudia Cardinal, très blonde, oui. Catherine Deneuve?
Non.
Mireille d'Arc?
Non.
Ah bah.
Non, mais elle était très connue, une actrice, là, que genre Claudia Cardinal.
Jane Fonda?
Non.
Je crois qu'en fait, c'est l'actrice Ursula Andress. Mais je voudrais pas m'avancer. S'il y a quelques auditeurs qui veulent bien nous le confirmer.
Enfin, dans Tabou de Nagisa Oshima, on peut voir de nombreux styles d'escrime, ce qui illustre la grande variété des techniques enseignées par le Koryu, de cette époque. Le Shambara, comme le cinéma japonais en général, vient du théâtre traditionnel, le Kabuki. Au début du XXe siècle, Shujiro Shawada propose des combats énergiques, encore dans ses pièces donc de théâtre, et surtout plus réalistes. La fascination du public pour les samouraïs est donc antérieure au cinéma. Kanamori Bansho révolutionne le genre dans les années 20 et en s'inspirant des pièces et aussi du cinéma occidental. C'était les pièces de théâtre, j'avais cité le nom par avance, que je ne vous redirai pas par politesse.
La prochaine fois, on fait les films esquimaux. Hein.
Oui.
Limite, ça va être encore plus sympa.
Donc, ils dynamisent les combats grâce à une utilisation alors inédite des techniques du montage. Le genre devient alors très populaire avec des acteurs comme Denjiro Okoshi, qui incarne des héros mythiques. On peut notamment citer j'aurais dû faire japonais en deuxième langue plutôt qu'allemand. Tange Sanjen, personnage fictif, borgne et manchot, héros du film Le pot d'un million de Rio en 1935 par Sadao Yamanaka. Donc après début de la guerre en 1935, entraîne une censure sévère qui interdit les histoires pessimistes. Donc ce genre renaît en 1954 avec les 7 samouraïs de Akira
Kurosawa.
Merci. Il mélange le film d'époque et le film de sabre, ce qui le rend plus accessible, notamment pour le public occidental. La même année, Hiroshi Inagaki adapte l'histoire de Miyamoto Musashi dans une trilogie dont le premier épisode reçoit revenons sérieux, reçoit l'Oscar du meilleur film étranger en 1956. Juste pour vous parler de Miyamoto Murashi, donc c'est 1584-1645, c'est un maître samouraï, philosophe et le plus fameux escrimeur de l'histoire du pays. Il est super connu au Japon. Ouh là là, Gwen s'est totalement écroulée suite à ma... Qu'est-ce qu'il y a, mon japonais ne te plaît pas? Oui, donc...
Non, c'est ni bon ni mauvais.
Merci. Donc, Masaki Kobayashi réalise Harakiri, qui donne un ton définitivement noir au genre, quoi. Honneur et respect, comme tu disais auparavant. Donc, c'est les mêmes valeurs qui ont porté le Japon militariste dans le film Harakiri. On retrouve donc les mêmes valeurs qui ont porté le Japon militariste durant la Seconde Guerre mondiale. Le genre porte alors les germes d'une vive critique sociale et politique. Le film recevra le prix du jury à Cannes en 1963, hein, quand même. Mmh, même période, début de la grande série des... Merci Gwen, les Aitoshi.
Oui, les Aitoshi, oui.
Qui fait entrer l'acteur Shintaro Katsu dans la légende. La série mettra en valeur de nombreux réalisateurs.
Oui, c'est l'histoire d'un moine aveugle.
Je crois qu'ils ont sorti je sais pas combien de films là-dessus. Quoi.
Il y a 26 films de Aitoshi. De 1962 à 1989, 2 en 1962, 3 en 1963, 4 en 64, 3 en 65, 2 en 66, 3 en 67, 2 en 68, 2 en 70, 1 en 71, 2 en 72, 1 en 73 et finalement le dernier, l'Odyssée finale, en 1989.
Donc les années 60 sont propices à la critique, ça questionne, il questionne donc dans tous ses films le Bushido, dont 6 films de Tomu Uchida, refusant de l'admettre comme un bien fondé. J'ai été assez surpris d'ailleurs qu'il y ait autant de films qui remettaient en question le Bushido. Quoi. Bah, non, t'as pas eu de...
Bah, disons que... non, mais moi je trouve ça tout à fait logique. Hein. C'est forcément, toujours un questionnement sur la féodalité, la remise en question du passé. Hein. Je veux dire, nous, en tant qu'Européens, on est passé aussi. Bon, pas sur le Bushido, mais sur d'autres trucs.
Donc on retrouve aussi cela dans Le Sabre du Mal, de Kihachi Okamoto, qui donne un regard cynique teinté d'ironie, puisqu'on voit qui transforme les samouraïs en véritables démons. Donc la décennie 70 est marquée par la série Baby Cart, adaptée d'un manga, Lone Wolf and Cube. Donc il y aura 6 films qui seront réalisés. Le Shambara a largement influencé des réalisateurs occidentaux qui ont mis en scène des remakes ou des adaptations de films célèbres, notamment Les Sept Mercenaires de John Sturges vis-à-vis des Sept Samouraïs.
Mm-hmm. Et qui donnera un peu plus tard Les Seven Swords, parce que Les Sept Lames, c'est pareil, c'est la même histoire.
D'accord. Et aussi Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, qui s'est inspiré de Yojimbo, de Star Wars de George Lucas, qui s'est inspiré de La Forteresse Cachée. D'accord. Donc retour en flamme dans les années 2000 avec Aitoshi, comme tu disais, là, qui est ressorti, qui s'appelait de le réalisateur Takeshi Kitano, Après la pluie de Takashi Koizumi et Le Samouraï du Crépuscule de Yohei Yamada. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le Japon.
Voilà, c'est ça. Petite. Eh ben non, de Dieu.
Oui, mais il fallait expliquer
la corrélation. Mais tu as très bien fait. Moi, j'ai techniquement, 3 films, surtout 2, qui sont tous les deux de Kazuaki Kiriya.
Des films chinois ?
Japonais.
Japonais. Ah oui, c'est vrai, on est au Japon. Merci.
Ben oui. Donc, Goemon, Freedom Fighter. Donc, il raconte l'histoire de Goemon, qui est un ninja, puisque là aussi, hein, les ninjas aussi, hein, oui, c'est le Japon, qui vole les riches pour détruire aux pauvres, tiens. Et alors qu'il vole une boîte qui semble vide, Goemon va attirer les foudres des Hidoshi Toyotomi et rentrer dans un complot visant la conquête du pouvoir de l'empire japonais du XVIe siècle. Et en fait, effectivement, Hidoshi Toyotomi, ça a été l'un des 3 unificateurs, c'est le deuxième des 3 unificateurs du Japon durant la période Sengoku. Donc de 1530...
Sengoku ?
Oui, pas Sengoku, Sengoku. Ah. Et de 1536 à 1593. Et donc, effectivement, ça raconte l'histoire de Goemon Ishikawa et de Saizo Kiriguri.
Goemon, ça n'a pas été un manga, ça ?
Oui, si. Et en fait, qui tous les deux ont été adoptés par le fameux empereur Nobunaga, et qui a été assassiné par son fameux lieutenant Hideyoshi Toyotomi. Et donc voilà, et ça, et ben là, pareil. Là, on tombe effectivement dans cette histoire de Fatum, parce que Goemon décide de venger son père adoptif, et là, ça part vite en sucette. Alors, c'est pas extraordinaire dans les combats, Voilà, c'est pas dans les combats que style héros, mais je trouve qu'il est vraiment extraordinaire au niveau de l'histoire, au niveau de l'image aussi. Beaucoup d'images de synthèse. Et d'ailleurs, Kazuaki Kiriya, en 2004, récidive avec Kaz Ehrn. Alors ça, par contre, on n'est plus dans le passé, on est carrément dans le futur. Alors que la guerre mondiale fait rage, le clan des vainqueurs paye un très lourd tribut aux batailles chimiques et technologiques dont il abuse. La population entière est menacée par des maladies, des virus et des mutations de tout genre. Jusqu'au jour où un célèbre chercheur affirme pouvoir cloner et dupliquer n'importe quel organe grâce à des néocytes qu'il a trouvés dans le corps d'une petite ethnie. Et en fait, sans que celle-ci soit rejetée par le corps. Et donc, la cellule développe secrètement, va leur emporter un énorme succès, mais révèle un inconvénient, car en plus de soigner les vivants, elle réveille les morts. Et ces derniers vont bientôt déclarer la guerre aux vivants. Et donc, en fait, effectivement, le héros Kaz Ehrn, Tetsuya Yazuma, va effectivement revenir du pays des morts et battre contre ces fameux ces morts-vivants, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas tellement... Et en fait, le truc, c'est que... C'est-à-dire que c'est ces morts qui reviennent à la vie, qui déclarent vouloir vivre et qui décident, bah nous, dès qu'on est arrivé, on nous a butés parce qu'on a eu peur de nous, et bah nous, on va faire pareil aux humains. Et il y a toute une histoire de vengeance au milieu, le père scientifique qui en fait voulait créer un truc pour soigner sa femme et tout. Et donc là, alors le très 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 esthétique, les combats sont magnifiques et tout.
C'est un film de quelle année ça ?
2004. Et moi je le trouve vraiment superbe. Alors c'est vraiment beaucoup d'images de synthèse, mais et là il y a toute une philosophie sur la vie, sur la mort, sur le pourquoi de ça, de cette guerre qui est carrément mondiale entre l'Asie et l'Europe, où l'Europe s'est carrément écroulée, que c'est l'Asie qui a gagné. Et franchement, moi j'ai adoré ce film. Et voilà quoi. Après là on est en plein dans, que ce soit Goemon ou que ce soit Kaz Ehrn, effectivement on est vraiment dans le fatum à fond, c'est-à-dire que le mec, eux ils ont décidé de se venger, mais il y a un prix à payer et il est très 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 élevé. Le dernier, et c'est qu'à le dire, c'est Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, qui est sorti en 2003 et qui est l'adaptation libre des événements de la rébellion de Satsuma en 1877.
C'est avec Tom Cruise ?
Voilà, c'est ça. Et le film s'inspire donc partiellement de cette rébellion en l'an 9 de l'ère Meiji, donc en 1877, comme je l'ai dit. Et c'est une rébellion de samouraïs dirigée par Takamori Saigo contre l'armée impériale japonaise et de l'histoire de Jules Brunet, un officier français qui démissionna de l'armée française par fidélité envers le dernier shogun.
Shogun,
pardon. Oui. Tokugawa Yoshinobu.
Pardon, pouvez répéter ?
Tokugawa Yoshinobu.
Merci.
Qui avait donc précédemment passé un traité d'amitié avec Napoléon III. Et donc là, effectivement, là c'est donc l'histoire de Tom Cruise, Nathan Algren, qui est un vétéran des guerres indiennes et qui est complètement alcoolisé, qui est engagé par un politicien et conseiller de l'empereur Meiji, Omura. Et celui-ci souhaite se débarrasser d'un ancien général de l'armée nippone, le légendaire samouraï Katsumoto. En fait, c'est l'acteur Ken Watanabe, qu'on a vu dans Lettre à Iwo Jima et Inception. Donc il engage cet officier américain pour qu'il entraîne l'armée japonaise. Et en fait, il va tomber dans un piège, être kidnappé par les samouraïs et apprendre à vivre selon le fameux Bushido, comme tu disais.
Merci.
Donc voilà, et celui-là, je trouve qu'il est très bien fait. Alors bon, vrai, très américanisé. Dans le Goemon, on voit le personnage d'Anzo Hattori. En fait, parce que les Goemon et Saizo ont été entraînés par Anzo Hattori, qui est un célèbre ninja japonais qui a existé et qu'on appelait carrément le démon et qu'on retrouve dans un film de Quentin Tarantino puisque c'est lui qui forge les fameuses lames dans Kill Bill, qui est joué par Sonny Chiba. Et Sonny Chiba avait fait une série où il y avait ce fameux Anzo Hattori.
Après il y a eu aussi des films d'animation qui s'appellent Ninja Scroll.
Ouais. Bah après il y a des films dithyrambiques sur les ninjas parce que forcément c'est les êtres de la nuit. Pour en faire un résumé de tous ces films asiatiques et tout,
encore, ils sont tous beaux.
Et ben moi je trouve qu'il y a une esthétique. Les combats sont magnifiques, faits par des gens très connus comme Donnie Yen. Moi que je trouve très bon dans ces films chinois ou japonais, c'est-à-dire que effectivement
pour coréen ou hongkongais, thaïlandais ou...
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a toujours une philosophie. Il y a un fatum, c'est-à-dire que si le héros doit mourir, eh ben il mourra et tout. Effectivement, à la fin plus qu'au début, c'est sûr, c'est plus logique. Mais voilà, et c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas...
La musique aussi.
La musique est extraordinaire, dans Héros, elle est extra. Et mais il y a un truc où, effectivement, on n'est pas comme les Américains. C'est-à-dire que moi, je prends un Nicolas Cage, je prends un Stallone, je prends un Jason Aspartam.
Du sucre. 16.
Et je fais mon film, mais c'est lui le héros. Il tire 2 balles, il y a 40 mecs qui tombent et on lui tire des mitrailleuses dessus, mais alors même pas qu'il prend un coup. Ou s'il a une balle dans le corps, il s'en souvient juste à la fin du film qu'il est blessé. Pendant tout le combat, il s'en souvient pas. Puis sauf quand le méchant lui appuie dessus, parce que pour dire quand même, il est un peu faible. Hein. Et lui, le seul problème qu'il a dans sa vie, le héros américain ou européen, c'est qu'il a des peines de cœur. Tu vois, il sauve 42 fois la planète, il a tous ses potes, mais son seul problème, c'est qu'il ne peut pas avoir une gonzette. Tu vois, c'est terrible.
Je comprends ta frustration.
Ouais. Non, mais ce n'est pas ça. Mais moi, je trouve que... Non, c'est pour ça qu'effectivement, moi, je suis un grand adorateur du cinéma asiatique, parce que...
Oui, s'il faut qu'il ait, ça kill, quoi.
Mais oui, non, mais... Et puis là, parce qu'on a parlé évidemment des films épiques, mais il y a tous les films policiers qui sont souvent très, très noirs et où ça se finit très mal, quoi. Et Quentin Tarantino, je sais qu'il a utilisé, je ne me rappelle plus, là, c'est là où il y avait les histoires de couleurs, là, Mr. Pink, Mr. Red, Mr. Et à un moment où ils se tiennent tous en joue avec leurs flingues.
Ah oui, c'est Réservoir Dog.
Les Japonais sont souvent terribles.
Oui, oui, mais c'est ça. Bah, c'est-à-dire quand il faut dessouder, c'est à dessouder. Ouais. Je veux dire, à un moment, tu
que
dis...
Que ce soit le héros...
Voilà, c'est ouais. Ça, le héros ou toute sa famille, bah, s'il faut qu'il meure, il meurt. Alors que nous, non, ça, c'est pas possible. Le héros, il peut pas... Il s'en sauve toujours. Alors, on va faire un petit passage par le Pestel, parce que après les vacances, eh ben, le Pestel.
En juillet ouvre.
Voilà, le Pestel rouvre. Donc, en fait. Ça va être...
On a déjà parlé vite fait.
Voilà, c'est ça. Ça va être un peu rapide parce qu'effectivement, voilà, parce qu'il y a Madagascar 3, donc Bon Baiser d'Europe, dont on a parlé la semaine dernière dans l'émission sur les films d'animation. Il y a Holly Motors que Hugo nous avait présenté la semaine d'avant. Mmh. Et donc, il y a le fameux Adieu Berthe, l'enterrement de
Mémé.
Voilà, de Bruno et Denis Podalydès.
Deux et avec, oui, avec Valérie Le Mercier et Isabelle Candelier. Donc, Mémé is dead.
Et la grand-mère est. Enterré, oui, enterré en Picardie. Enterré en Picardie, fini les vacances pour mamie. Elle qui aimait tant les fleurs, elle a de la chance dans son malheur. Enterré en Picardie, c'est le bonheur pour la vie. Pas de problème pour l'enterrement, l'assurance marche.
Armin avait un peu oublié sa grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de Médoc, Armin cache ses accessoires de magie, car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de la fille de son amante, Alix.
Ah ben d'accord.
Et Mémé, dans tout ça, on l'enterre où ? On l'incinère ? Qui était Berthe ? Donc on retrouve le même ton dans la première demi-heure que Banc Public, Versailles rive droite, il me semble, c'était. Mmh. La comédie prend un tournant plus intimiste, mélancolique et surtout moins ironique. Séduisant avec son humour noir, il a finalement... Je suis attaqué par une mouche. C'est terrible.
C'est terrible ce qui vous est arrivé.
De quoi ?
Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé.
Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible.
Je suis attaqué par une mouche.
Terrible.
Séduisant avec son humour noir, il y a finalement une légère déception à constater que le réalisateur n'ait pas réussi à trouver le bon équilibre pour nous charmer totalement. Le fait que ce film nous piège du début à la fin pour notre plus grand bonheur est d'abord par son entrain solaire alors qu'il y est question de séparation, de décès, d'Alzheimer ou d'incinération. Donc c'est une bonne comédie, enfin bon, mais j'ai lu que des bonnes critiques.
D'accord, ok.
Mais je pense que là, moi je vais aller voir Holly Motors et ouais. Adieu Berthe peut-être.
Voilà. Quoi, tu ne vas pas aller voir
Afro-cirque, 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 zèbre-poil, c'est pas moi.
Donc Gwen, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais?
Eh ben moi, la semaine prochaine...
On va parler de la nouvelle vague avec Jenna Doronné.
Les étés, pour moi.
Les étés.
Les étés, oui.
Pas en maçonnerie.
Mais non, mais les étés, la saison. Tous ces films qu'on nous répétait et répétait sans cesse sur notre brave petit écran carré, c'était les films
comique.
C'est-à-dire qu'on fasse tous ces fameux nanars.
Ok, bon, ben ATC, c'est fini, merci, au revoir. Ouais, et désolé pour les Japonais, sinophiliens.
Voilà, c'est ça, tout sinophiliste. Sinophiliste. Nous ne voyons pas quoi dire.
Oui.
Donc voilà, effectivement.
Donc la semaine prochaine, émission de merde avec des films de merde qui vous font rire.
Non, moi je trouve que non, c'est un petit côté nostalgique, le nanar, oui. Le nanar français. On a eu l'humour britannique.
On aura le film léger de la francophonie française.
Au revoir, ATC, ATC, ouais, tu connais. 1, 2, 3, oh, ATC, oh, 1, 2, 3, ATC, oui, j'y connais.
C'est pitoyable, quoi. ATC, vous en avez assez, raccrochez.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander.